Vous écoutez Radio Campus Lille Info comme chaque mercredi entre 16h et 17h. On va parler donc maintenant d'un sujet qui est assez nouveau puisqu'il s'agit de science et culture du visuel. Science et culture du visuel, c'est un programme lancé par plusieurs institutions, on va dire. Et pour nous présenter ce programme, nous accueillons Monsieur Laurent Grisoni, qui est professeur d'informatique et responsable de l'équipe de recherche MINT à l'Université Lille 1, CNRS et INRIA de Lille Nord-Europe, et Monsieur Francesco de Comité, qui est maître de conférence à l'IFL. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Donc, un programme sciences et culture du visuel, c'est un programme qui est transdisciplinaire, on va dire.
Absolument. C'est un programme qui traite de l'image dans toutes ses acceptions, y compris historiques, autour de la question de la perception, de la boucle de perception et d'action autour du visuel.
Donc il y a un lieu nouveau qui est dédié à cela.
Oui, donc l'initiative se développe à Tourcoing, dans un bâtiment qui s'appelle l'Imaginarium, qui est au cœur de la zone de l'Union, qui est une zone relativement étendue de la municipalité de Tourcoing, qui est en cours de réhabilitation et de redynamisation économique. Et donc l'enjeu est de faire que les disciplines académiques fassent des choses ensemble dans une logique transdisciplinaire et que les écosystèmes qui sont impliqués là-bas, à savoir les écosystèmes académiques, économiques et artistiques, fassent des choses aussi intéressantes au bénéfice de tous.
Est-ce qu'on peut dire que cette zone est une pépinière de recherche et de créativité ?
Oui, d'une certaine manière. La mode est plutôt à parler de cluster en ce moment. Mmh. L'idée de définir des environnements qui soient un mix de collaboration et de compétition, on va dire, pour qu'un écosystème puisse naître et se développer.
Donc plusieurs partenaires se sont rassemblés autour de ce projet ?
Oui. Le projet est une initiative qui est coportée par l'île 1, l'île 3 et le CNRS. Et l'INRIA est également partenaire.
Alors on peut peut-être, là on a dit des noms comme INRIA, on peut peut-être préciser ce que ça veut dire.
INRIA, ça veut dire Institut National de Recherche en Informatique et Automatique.
L'informatique est un peu au cœur de ces systèmes ?
Ça, c'est une question difficile. Disons que, alors, la plupart des disciplines académiques se retrouvent à la fois dans une logique de démarche propre, c'est-à-dire que les scientifiques qui participent à l'initiative participent par rapport à leur propre démarche et leur propre questionnement. Ils y vont aussi dans une logique de collaboration, ce qui veut dire être capable de proposer des compétences aux autres domaines ou aux autres écosystèmes. Et donc dans cette logique-là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de domaines ou de questionnements ou de propositions d'activités où l'informatique est impliquée, ce qui renvoie d'ailleurs à une difficulté de définition du domaine en lui-même. C'est une question auxquelles les mathématiques ont été confrontées il y a quelques dizaines d'années. Mais oui, l'informatique a une place importante.
Francesco de Comité, la partie pédagogique, la partie cours dans cette structure par rapport à la partie réalisation, comment elle se définit ?
Elle se définit pas tellement. En fait, il n'y a pas tellement d'applications au niveau des enseignements, au moins pour le moment. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager à partir des exemples de ce qu'on peut réaliser, quoi.
Ça ne s'apprend pas pour l'instant complètement dans une chaire de l'université ?
Non.
Non,
pas de... De mon point de vue, c'est plutôt une histoire de technique et d'entraînement. Enfin, donc, il n'y a pas forcément de cadre académique où le faire rentrer pour le moment.
Donc, vous êtes maître de conférence. Comment vous intervenez dans ce projet ?
Alors, moi, je m'intéresse à la production d'images de synthèse. Représenter souvent des objets mathématiques ou des concepts mathématiques à partir sous forme d'images, et puis plus récemment sous forme d'objets obtenus en impression 3D, donc de sculptures. Et dans ce domaine-là, donc, j'ai travaillé sur la génération d'anamorphoses, donc d'images déformées qu'on doit regarder à travers un miroir pour pouvoir voir l'image non déformée. Et à partir de là, donc, on a développé une technique qui a commencé à intéresser des artistes avec qui on est rentré en contact et avec qui on mène maintenant une collaboration dans le cadre des sciences du visuel.
C'est évidemment un domaine où les technologies évoluent très vite. Comment on arrive à suivre le mouvement ?
On court derrière, on essaie, on fait un petit peu à la fois, donc on a des défis et puis on cherche les solutions. Ça passe parfois par des approches différentes ou bien par l'adoption d'un nouveau logiciel, mais tout ça c'est pas à pas, quoi.
Il y a des gens qui utilisent des logiciels, il y en a d'autres qui les créent. Sur les universités, on est en situation aussi de créer.
Oui, c'est pas tout à fait le même travail. Moi, je suis plutôt du côté de l'utilisation et peut-être de voir un petit peu comment ils sont faits à l'intérieur, mais j'ai envie de voir des résultats et donc j'ai pas envie de passer longtemps à développer, mais ça pourrait se produire.
Quelles seraient vos demandes aux chercheurs, hein, des labos, de l'informatique, par rapport à des besoins, des usages que vous appréhendez et que vous imaginez qui peuvent se développer de façon universelle?
Je pense qu'il y a déjà des choses, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et que je ne maîtrise pas. Et donc, j'ai pas forcément besoin qu'on me développe des nouveaux outils, mais peut-être prendre du temps pour apprendre les outils déjà existants et que je ne maîtrise pas.
Alors c'est vrai que sur certains sites, on voit proposer un nouveau logiciel tous les jours. C'est quelque chose évidemment qui donne une idée du foisonnement qui existe, mais aussi parfois de choses qui se recoupent, de choses qui sont d'une qualité plus ou moins élevée. Quand on réalise des projets, qui conseille sur l'utilisation de tel ou tel logiciel, Laurent Grisoni?
Alors c'est une question compliquée, parce que la question philosophique de la perception du logiciel informatique en tant qu'outil soulève trois aspects. Un outil, fondamentalement, si on pense à un tournevis, une fourchette ou à une table de mixage de radio, c'est un outil qu'on va savoir quand utiliser, comment utiliser, mais c'est un outil dont on n'a pas forcément besoin de savoir comment il est fait. On sait quand utiliser un marteau, comment s'en servir, mais on se contrefiche de savoir qui l'a fait et comment ça a été fait. Le logiciel est la seule exception que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment une singularité dans ce monde d'outils, dans la mesure où la seule personne qui va véritablement savoir comment il fonctionne, quelles sont ses capacités, quelles sont ses limites, c'est l'informaticien. C'est la personne qui a la connaissance de comment le logiciel peut être fait, qui à peu près seul peut comprendre la réalité, les potentiels et les limites de l'outil. Et en pratique, un informaticien va passer son temps à adapter les outils aux situations qui l'intéressent. Ce qui est aussi une singularité dans cette relation à l'outil.
Est-ce que cet informaticien est plutôt isolé ou travaille avec un groupe d'échanges, de conseils, de savoir-faire, de compétences?
Alors à partir du moment où l'informaticien envisage de faire des outils, il va essayer d'interagir le plus tôt possible et le plus possible avec les gens qui vont être des utilisateurs de l'outil. Sachant que c'est une boucle éternelle.
On est dans une situation où il faut mettre sur pause pour exploiter, comme le disait Francesco de Comité, les outils déjà qui mériteraient de s'installer dans une certaine durée et aussi d'être appropriés par les utilisateurs, ou on est dans une course folle encore?
Je dirais qu'on n'est pas dans une course folle. On est dans quelque chose qui est éternel et statique, c'est le changement constant. La seule chose qui ne change pas, c'est le fait que tout change. L'informatique à l'heure actuelle, c'est-à-dire la capacité via la logique de définir un comportement ou d'automatiser une tâche, est quelque chose qui à l'heure actuelle s'immisce dans de plus en plus de périphériques, de plus en plus de réalités de métiers ou de tâches humaines. vu de l'informatique, on est sur des instanciations différentes de choses qui sont tout à fait pérennes et transverses. Vu de l'extérieur de l'informatique, on peut être sur des choses qui sont très très différentes. Je parlais d'un enjeu pour l'informatique de se définir avec cette fragilité qui est aussi une puissance d'une vraie influence sur énormément de disciplines, avec le problème de trouver son cœur de définition lui-même. C'est le même problème que les mathématiques ont eu il y a quelques décennies.
Donc aujourd'hui, on parle plus spécifiquement du visuel, de la culture du visuel. Donc dans le visuel, il y a la photo, on va dire, il y a la vidéo, le film, d'une manière générale. Et puis il y a aussi les installations, les performances, tout ce qui est peut-être décors qui enrichissent les rues. Et puis il y a l'industrie, d'une manière globale, des loisirs. Tout ça ?
Absolument. Vous allez trouver également des dimensions de questionnement autour de l'importance de l'image dans le maintien du pouvoir des religions, par exemple. Les conventions sociales, les conventions de vestimentaires impactent sur l'image que l'on peut avoir d'une personne. Donc ces aspects-là sont également pris en compte.
Ce qui veut dire qu'il y a des psychologues qui travaillent avec vous, qui peuvent vous démontrer qu'en utilisant telle technique, on va faire passer un message plus fort ?
Alors, il y a des gens qui s'intéressent effectivement à ça. Vous avez aussi une branche de la psychologie des sciences cognitives qui s'intéresse à des réactions qui sont très proches de la neurologie, au niveau de la réactivité du cerveau. Il y a des niveaux de mesure qui sont très très bas. Avant, tout le processus cognitif, les processus de mémorisation, les choses qui sont beaucoup plus haut niveau et qui, elles, vont pouvoir intéresser des domaines comme par exemple l'histoire de l'art.
Il y a aussi bien sûr la publicité qui vit essentiellement de l'impact de ces messages sur l'économie, Francesco de Comité. La publicité, c'est un champ important qui vous préoccupe ou qui vous occupe ?
Oui, ben je le vois plutôt en spectateur. Je pense que leurs moyens sont largement supérieurs à ceux que je peux, auxquels je peux avoir accès. Mais oui, c'est... Bon, une source d'inspiration, une source d'émerveillement parfois, quand on voit les publicités qui correspondent un peu aux choses qu'on fait, sur les anamorphoses, des choses comme ça. On voit qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent à peu près au même domaine et qui avancent. C'est intéressant.
Est-ce qu'il y a des gens, des citoyens qui justement font appel à vos connaissances pour prémunir un peu contre les risques de dérapage d'une société à la fois qui est guidée par l'argent, la religion, etc., et qui veulent rester maître d'eux, si possible ?
Alors, on n'a pas pour l'instant été contacté par des gens qui souhaitaient se protéger de ce phénomène-là. Par contre, il y a un faisceau de communautés de pensée qui se structure de manière intéressante au niveau national. Par exemple, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas deux jours d'interagir avec quelqu'un qui s'appelle Igor Galigo qui appartient au centre Pompidou, donc qui travaille avec Bernard Stiegler, et ils ont mis en place cette année une série d'exposés autour de l'écologie de l'attention, cette idée que un citoyen en construction, donc un enfant, grandit dans un monde où son attention est tout le temps sollicitée, tout le temps captée. Et du coup, c'est un environnement de construction cérébrale qui est complètement différent de celui que nous, on a connu, à une échelle de 20-30 ans. Il y avait beaucoup moins de sollicitations par l'image. Donc du coup, l'attention était beaucoup moins captée, ce qui laissait de l'espace pour des constructions cérébrales plus standards. Là, il y a quelque chose qui a été modifié et qui induit beaucoup de difficultés de redéfinition de l'enseignement, etc. C'est par exemple un des leitmotifs récents de Michel Serres avec la petite poussette, pour essayer de reprendre cette notion d'éducation et de réfléchir de nouveau à ce que ça veut dire éduquer dans un monde où les enfants ont accès à de la surconnexion et une infinité d'informations de manière instantanée.
Est-ce qu'on peut dire que, à l'image de la personne qui ne dort pas ou qui dort mal, les personnes qui sont sans arrêt sollicité au niveau de l'image, au niveau de la mise en condition, on va dire, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et essayer de faire des pauses dans la journée.
C'est difficile de faire une généralité de ça. Je pense que, enfin, il y a un certain nombre d'idées et de courants qui encouragent à trouver la bonne distance par rapport à l'outil numérique, ni trop ni trop peu. Le fait d'être tout le temps connecté induit une charge cognitive qui est très importante. Cette charge cognitive empêche d'être efficace sur un certain nombre de tâches. Si on envisage le cerveau humain comme une unité de traitement, on va dire, c'est vous avez un organe qui est très très largement parallèle, mais avec des unités de calcul qui fonctionnent très lentement. Et donc vous avez un système qui va fonctionner d'une manière très spécifique. Et effectivement, par exemple, le fait d'être tout le temps très réactif par rapport au mail qui est reçu fait qu'en pratique, vous passez votre journée sur votre mail. Donc si vous voulez avoir du temps d'esprit disponible pour faire autre chose, c'est une bonne pratique de lire son mail une fois le matin, une fois le soir, ou d'avoir des plages où on ne lit pas le mail.
J'ai rencontré quelqu'un qui mangeait avec moi, hein, qui pendant ce temps-là lisait ses mails et envoyait les photos de ce qu'il mangeait directement sur Internet. C'est un peu étonnant.
Oui, oui.
Il faut vivre avec. Hein.
On en revient à cette idée d'outil, c'est-à-dire que ne viendrait à l'idée de personne de passer ses journées avec un marteau à la main, ça ne choque personne d'avoir un smartphone à la main toute la journée.
C'est curieux quand même d'avoir en direct sur Facebook l'image de ce qu'on est en train de manger avec quelqu'un.
Je ne sais pas, l'expérience, ça m'est jamais arrivé. Donc.
Ça étonne, oui, effectivement. Donc on est, on peut dire, au début d'une nouvelle culture, peut-être encore, d'une nouvelle ère peut-être pour l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des enjeux de société qui se dégagent de ça ?
Sur la relation numérique ?
Ouais.
Absolument. Absolument, c'est un outil sur lequel on a très très peu de recul. Par exemple, quand on demande à un enfant qui sait écrire, qui commence à utiliser un clavier d'ordinateur, de se servir d'un moteur de recherche, certains vont s'en servir d'une bonne manière, certains d'une manière qui est un petit peu plus bizarre. Sur certaines catégories socio-professionnelles, vous leur demandez qui est De Gaulle, au coup de Google, ils vont vous répondre que c'est un porte-avions. C'est-à-dire que l'information que le moteur de recherche va leur donner, ils n'auront pas la capacité de la contextualiser, de prendre une prudence, de recouper, ils prennent juste le premier lien et ils transmettent l'information sans contextualisation. Les adultes qui se servent bien de moteurs de recherche sont le plus souvent des gens qui ont été construits par le livre. Quand nous sommes passés à l'école, nous avions des livres. L'ensemble d'informations que fournit un livre n'est pas l'ensemble d'informations qu'on peut récupérer de manière instantanée sur Internet. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet.
Donc cette société qui évolue, hein, on essaye de s'adapter. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens exclus ou de gens inclus à ces systèmes ?
Je pense que sur le long terme, alors long terme, je ne sais pas quel temps ça peut prendre, il y a un phénomène inévitable de co-adaptation qui stabilise certains contextes de relation entre l'utilisateur et son outil et sa tâche. Ce contexte-là n'est absolument pas stabilisé dans le contexte informatique. Les machines que tout un chacun peut, les ordinateurs portables que l'on peut acheter, sont aussi bien adressés au programmeur qu'à l'utilisateur de l'informatique, ce qui est une aberration. Quand on observe les tablettes, qu'on observe un processus de simplification de l'outil informatique, on se rend compte que commence à apparaître un point de schisme entre des machines informatiques pour l'informaticien et des machines informatiques pour l'utilisateur. Mmh. L'informatique avec l'enjeu de définir proprement ce que va être l'utilisateur et la capacité de pouvoir permettre à chacun de naviguer finement entre l'un et l'autre en fonction de ce qu'il souhaite.
Et c'est vrai qu'il y a des logiciels et des systèmes, des technologies qui permettent d'améliorer considérablement des images qui sont prises notamment par des téléphones portables et qui redressent les courbes, qui remettent tout dans un profil pour que l'image apparaisse normale.
Alors, ça soulève énormément de questions de fond, ça. Par exemple, dans le contexte du reportage photographique et de concours internationaux, il y a une vraie question sur l'enjeu de savoir si oui ou non une photo peut être retouchée dans une logique journalistique. C'est une vraie question. Modifier un tout petit peu une photo pour la rendre plus esthétique, c'est de toute manière modifier le contenu que l'appareil photo va prendre. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que l'image qu'un appareil photo va pouvoir prendre de la réalité n'est pas la perception humaine que l'on pourrait avoir de cette même réalité si on était juste à côté. Un exemple facile de ça, pensez à ce qu'on voit souvent de nuit quand on est à la pleine lune et que la lune est à un endroit rasant sur l'horizon, on voit la lune beaucoup plus grosse. Quand vous êtes confronté à cette situation-là, prenez une photo de la situation, vous verrez que la lune apparaît toute petite sur la photo. Il se passe un phénomène d'illusion où le cerveau reconstruit une lune bien plus grosse que ce qu'elle n'est en réalité.
La technologie ne reproduit pas les mirages.
Non.
Bon, il y a encore de l'espoir alors.
Bah, oui, de toute manière, cette logique technologique, c'est une activité humaine. Donc c'est une activité humaine qui a pour but de parler à l'activité humaine. Donc on est dans des cycles qui sont très très courts par rapport à l'évolution du numérique. On part souvent de révolution numérique. Qu'on fasse attention à la sémantique originelle du mot révolution, qui ne contient pas que du positif. L'enjeu de fond, c'est qu'effectivement, ça nécessite de repenser un certain nombre de choses qui sont établies. On a l'habitude d'apprendre via le livre. Là, on a plein d'outils. C'est très bien pour certains côtés, mais ça soulève d'autres questions qui doivent absolument être posées.
Alors, on signalait tout à l'heure qu'il y avait une forme de dispersion et des gens qui sont abreuvés d'images. Comment on peut structurer une pensée, une logique, une culture à partir de tous ces éléments qui nous arrivent sans forcément qu'on aille les chercher? Je vois par exemple, quand on se concentre parfois sur une recherche, sur un moteur de recherche quelconque, on est abreuvé de parasitage, d'écrans qui viennent se superposer ou d'informations qui peuvent éventuellement dérouter notre recherche.
Oui. Y a des gens de sciences cognitives qui militent pour répandre l'idée qu'un enfant, pour développer une créativité, a besoin de s'ennuyer. A besoin d'être livré à lui-même, tout seul, sans information, sans sollicitation, sans captation d'attention, tout simplement pour mettre en marche des processus cérébraux qui vont par la suite lui permettre d'être créatif.
Voilà, l'ennui, donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'équivalent du sommeil et on en a besoin.
Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme actualité de ce qui se passe au Visual Studies Pleine Image de Tourcoing?
Donc, l'initiative va être inaugurée par une séance porte ouverte demain soir, ça fera de ma part. Dans le contexte de cette venue, il y a une délégation de Duke University qui va nous rejoindre. Ils nous avaient déjà rendu visite il y a 4 ans de ça, donc ils auront l'occasion de voir l'évolution de l'activité, et je pense que les discussions vont être très intéressantes avec eux. Voilà pour l'activité immédiate.
Qui se retrouve donc dans ce lieu de la pleine image autour de sciences et culture du visuel? Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de, on va dire, professionnels de l'image, voire du son.
Alors, l'enjeu, de mon point de vue, c'est d'arriver à développer quelque chose qui ait du sens sur le site géographique, sans être dans une logique d'habiller Paul en déshabillant Jacques, si je peux m'exprimer ainsi. Donc l'idée pour tous les académiques qui sont impliqués dans l'activité, sachant qu'on passe tout notre temps à bouger d'ici de là, de toute manière, et d'ores et déjà, c'est de développer des activités en collaboration avec l'écosystème local, l'écosystème du site, dans une logique d'activité qui soit complémentaire à celle qui est déjà développée sur les sites universitaires. L'idée est vraiment de développer quelque chose qui soit complémentaire, qui soit un plus pour tout le monde, sans chercher à répartir de manière un peu artificielle les gens.
Qu'est-ce qui existe déjà en région Nord-Pas-de-Calais comme système ou comme lieu qui concentre ces énergies, ces technologies?
Alors, avec des nuances significatives dans le fonctionnement, le site de RAT Technologies comporte aussi cette richesse et ce foisonnement de cultures et d'obédiences très différentes. À Valenciennes, il y a une initiative qui se met en place également sur laquelle j'ai moins d'informations.
D'accord. Est-ce qu'il y a dans l'année des moments, des temps forts de présentation publique de ce qui va être fait là-bas ?
Alors, l'idée, c'est encore à maturer, c'est encore à travailler, mais l'idée, c'est de mettre en place, en fait, l'Imaginarium a une partie grand public. C'est-à-dire que la plupart des... Il y a assez régulièrement des petits événements qui sont organisés, qui sont toujours gratuits, toujours ouverts à qui souhaite venir, par curiosité ou par intérêt, écouter, discuter avec les gens. Donc l'environnement est très, 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 très ouvert.
Voilà, ça se passe à la zone de l'Union, donc Visual Studies Pleine Image. Merci, messieurs Laurent Grisoni et Francesco de Comité. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci.